27. Élise. Nous ne sommes plus que quatre à la journée de formation. La femme qui voulait choisir les bébés à câliner n'est plus là. Reste une étudiante, une dame âgée et le grand chauve. Je ne pensais pas le revoir. Lors de la première réunion, sa question avait semblé agacer Hélène et la réponse n'avait pas eu l'air de le satisfaire. Hélène est accompagnée d'une bénévole et d'un psychologue que nous rencontrerons individuellement. J'ai hésité à venir. Je ne suis pas sûre de savoir m'y prendre. D'être assez patiente, assez solide. Je ne suis pas sûre d'en avoir envie. J'ai peur que cela ne ravive de vieilles blessures. Je n'ai jamais câliné d'autres bébés que les miens. Il me manque terriblement. Je trimballe ma nostalgie comme un caillou dans ma chaussure. J'avance de guingois. Le moindre trou dans la chaussée peut me faire chanceler. J'ai besoin de davantage d'éléments pour me décider. La formation va me les fournir. Être câlineur ne comporte pas que des avantages, explique Hélène. L'association ne peut prendre le risque de recruter des bénévoles qui abandonneront en cours de route. Nous devons être conscients du temps et de l'investissement que cela nous demandera. C'est un réel engagement. Mais le plus éprouvant, ce sont les cas auxquels nous allons être confrontés. Derrière les portes des services de néonatalogie se cache une réalité que la plupart des gens préfèrent ignorer. On peut mourir à tout âge, même quand on n'a pas encore vécu. Le silence tombe sur la pièce. J'ai envie de ne pas être venue. La bénévole présente intervient.
Je m'appelle Céline, je suis câlineuse depuis 7 ans. Hélène a raison de vous préparer au pire. Moi, j'aimerais vous parler du meilleur. Quand j'ai commencé, je voulais aider, même si je n'étais pas certaine d'avoir le courage nécessaire. Je m'attendais à un univers sinistre, empli de tristesse et de peur, et je ne vais pas vous le cacher, il y en a. Mais pas uniquement. Il y a des rires, de l'espoir, de la douceur, de la joie, de la solidarité. Chaque mercredi matin, j'ai hâte d'aller retrouver les bébés dont je m'occupe. Mais aussi les équipes médicales, les autres bénévoles, les parents. C'est un microcosme empli de personnes bienveillantes et ça fait du bien. Mais ce qui m'épanouit le plus, c'est ce que j'apporte aux enfants. Je ne saurais l'expliquer, je le ressens profondément à chaque fois que j'ai un nouveau-né contre moi. On ne peut pas tous les sauver, et c'est dévastateur quand une petite vie s'arrête. Mais il y a tous les autres, ceux qui s'en sortent. Ceux dont on a des nouvelles plusieurs années après. On les apaise, on les aide. C'est rare de se sentir aussi utile. Hélène reprend la parole.
Je n'écoute plus vraiment. Quelques bribes me parviennent, les protocoles d'hygiène, les certificats à fournir. Pourtant plus rien ne me déstabilisera. Le témoignage de Céline a étouffé tous mes doutes.
28. Lily. Je n'aime pas trop la psychologue. Chaque matin, quand elle passe me voir, je me promets de ne pas m'épancher. Mes fêlures, mes angoisses, mes ombres, je préfère les garder pour moi. Je peux les maîtriser, les plier en quatre, les ranger dans un coin, sous une pile de mouchoirs. Parfois même, j'arrive à les oublier. Les évoquer, c'est les rendre réels. Elle ne m'oblige pas à parler. Elle est d'une délicatesse extrême. Elle me laisse la main. C'est pire. Son sourire est le plus efficace des pieds de biche. Sa douceur est un bélier. Chaque fois, je lui ouvre en grand la porte de mon esprit, les fenêtres, et je l'invite à visiter toutes les pièces en lui servant à boire. C'est un peu la belle-mère de mon cerveau. Ce matin, j'étais en train de tirer mon lait quand elle est entrée dans ton box. Je m'installe toujours dos à la porte vitrée pour me protéger des regards, dernier soubresaut d'une pudeur portée disparue depuis le début de la grossesse. Pendant l'accouchement, ils étaient si nombreux à scruter mon intimité que, au bout d'un moment, ma gêne a plié bagage. J'avais le sentiment d'être à une journée porte ouverte et c'était moi le monument.
« Je vous dérange ?»
elle a demandé perspicace. « Pas du tout, » j'ai répondu, hypocrite. Elle s'est installée face à moi et a voulu savoir comment j'allais depuis mon retour à la maison. Comme d'habitude, j'ai assuré poliment que tout allait bien. Elle a souri.
« Ce n'est pas une question rhétorique. La réponse m'intéresse vraiment. Vos angoisses sont-elles toujours présentes ?
Un peu moins depuis que le pédiatre m'a dit qu'elle allait s'en sortir.
Pourtant, vous n'avez pas l'air totalement rassurée. J'ai secoué la tête. Vous ne croyez pas les médecins ?
Je sais qu'ils peuvent se tromper. J'ai soufflé.
Vous l'avez expérimenté ?
Je n'ai pas envie d'en parler. Instinctivement, j'ai prononcé la dernière phrase avec agressivité. Certains sujets me font l'effet d'une effraction. Mon corps entier les rejette violemment.
Très bien,
elle a déclaré de sa voix douce. « Y a-t-il quelque chose qui pourrait apaiser vos inquiétudes ?» J'ai réfléchi quelques secondes, une seule solution m'est apparue. « Il faudrait que je puisse aller jeter un œil dans l'avenir. » « Vous savez que c'est impossible. »« C'est faux, je dois juste trouver une DeLorean. » Elle m'a observée sans un mot. Aucune expression ne transparaissait sur son visage. Je me suis sentie obligée de rire à ma blague, pour lui signifier que c'en était une. Il n'y a rien de plus gênant que rire à ses propres tentatives d'humour. Elle a haussé les épaules. Il faudra demander à Doc d'y installer un tire-lait. Cette fois, je me suis esclaffée de bon cœur. Elle a enchaîné. Dites-moi, dans le pire des cas, que pourrait-il se passer? Que redoutez-vous tant? Mentalement, je l'ai interrogée sur le nombre d'années d'études nécessaires pour être apte à poser des questions aussi stupides. Oralement, j'ai avoué que le pire, ce serait que tu meurs. Que se passerait-il si cela arrivait? Je mourrais aussi. Bien sûr que non. Bien sûr que si. Elle a laissé flotter le silence, puis elle a enfoncé la lame plus loin. Vous avez déjà survécu à une terrible épreuve, n'est-ce pas? Je vous ai dit que je ne voulais pas en parler. Essayez d'imaginer, comment pensez-vous réagir si vous perdez votre fille? La seule chose que j'avais envie d'imaginer, c'était le moment où, par inadvertance, mon poing allait rencontrer son nez. Je refusais les autres projections. Je chassais les images d'une vie sans toi. C'était insupportable. J'ai vécu 27 ans avant toi, et en 10 jours, tu es devenue essentielle. Mon cœur cogne plus fort, mes poumons se sont déployés, c'est comme si jusque-là, tout mon être t'attendait pour sortir de l'hibernation. J'ai vécu 27 ans sans savoir que tu me manquais. Quand elle a compris que je ne répondrais pas, Eva a repris la parole. Vous savez, je rencontre beaucoup de personnes désœuvrées. Dans ce service, rares sont celles qui ne le sont pas. Ignorer si son enfant va vivre et être totalement impuissant figure parmi les plus grandes tortures. La plupart tiennent le même discours que vous. Si mon bébé meurt, je ne m'en remettrai pas. Malheureusement, cela arrive parfois. Il y a deux choses que je peux vous affirmer. La première, c'est que tant que vous n'avez pas vécu une situation, vous ne pouvez pas savoir comment vous y réagirez. La projection est un fantasme, pas un prolongement de la réalité. Souvent même, on observe que les plus pessimistes sont ceux les plus prompts à se relever. C'est un phénomène connu. De même que les hypochondriaques, qui craignent toute leur vie de développer une maladie et ne pas pouvoir y faire face, sont généralement ceux qui acceptent le mieux l'annonce d'une pathologie. La seconde chose, c'est qu'on peut se réparer de tout. Toutes les pièces ne seront pas forcément à la bonne place, certaines seront manquantes, mais on se reconstruit. Cela demande du temps. C'est un petit pas en avant pour trois grands sauts en arrière, mais l'humain est ainsi fait. C'est aussi tragique que sublime. J'ai suivi de nombreux parents endeuillés, persuadés de ne jamais plus sourire, jusqu'à ce qu'ils sourient à nouveau. Cela s'appelle la résilience. Ta machine a sonné, interrompant son discours. Ce n'était pas la première fois que ton rythme cardiaque ralentissait pendant ton sommeil. On m'avait rassuré. Si on branchait tous les nouveau-nés, tous auraient des anomalies. Ça n'a pas duré. Le temps que Florence arrive, tes battements étaient redevenus normaux et les miens avec. La psychologue s'est levée et a entrepris de s'éclipser. J'ai noté ton nom sur le flacon que je venais de remplir de lait. Avant de quitter ton box, elle a ajouté « Au fait, je ne sais pas si quelqu'un vous a prévenu, mais une socio-esthéticienne vient une fois par semaine. » Elle sera là cet après-midi, si vous voulez prendre rendez-vous. Une socio-esthéticienne? Oui, c'est une esthéticienne formée pour prodiguer des soins aux personnes hospitalisées, malades ou accompagnantes. Ici, elle propose des soins corporels aux parents pour les aider à évacuer les tensions. C'est très bénéfique, je vous le recommande. J'ai hoché la tête poliment tout en rangeant l'information dans ma corbeille mentale. Je suis tellement vulnérable que même l'eau de la douche m'agresse. Personne ne posera les mains sur moi, à moins qu'on ne me fasse une anesthésie générale.